Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio. Les titres, la table ronde nationale sur la protection sociale, il était question de lundi à vendredi cette semaine à Kinshasa. Ces assises ont examiné le problème lié aux insuffisances dans la couverture et dans la qualité des prestations sociales. De lundi à jeudi, les décideurs et hommes d'affaires belges et congolais ont ensemble exploré les opportunités d'affaires ici à Kinshasa. Nous voulons parler de cette mission économique et commerciale d'hommes d'affaires de la Wallonie-Bruxelles qui a séjourné en RDC cette semaine. Nous revenons également dans cette émission sur la crainte des employés de Kamoto Copper Company, ceux-ci craignant pour leur avenir professionnel après l'annonce par le groupe suisse Glencore de suspendre la production du cuivre dans les mines de l'ancienne province du Katanga en RDC et de Mopani en Zambie pour 18 mois. Nous allons aussi parler de cet accord de plus de 50 millions de dollars américains entre la coopération britannique et le ministère du plan de la RDC signé mercredi à Kinshasa. Ces fonds vont servir dans le cadre d'une assistance technique au gouvernement de la RDC dans la mise en œuvre des réformes visant l'amélioration du climat des affaires. Notre invité cette semaine, Gabi Kouba, c'est avec lui que nous allons commenter et analyser l'actualité économique de la semaine. Gabi, encore une fois, bonjour et bienvenue à Panorama Économique.
Oh, bonjour Dani.
Panorama Économique, le dossier.
Et nous allons commencer cette émission par le début même de la semaine, c'est-à-dire lundi. Il s'est ouvert à Kinshasa la table ronde nationale sur la protection sociale. Ces assises qui se sont clôturées hier vendredi ont examiné les problèmes liés aux insuffisances dans la couverture et la qualité des prestations sociales. Les participants venus de toutes les provinces avaient donc à valider les deux documents déjà produits qui devraient servir de référence aux partenaires intervenant dans le secteur de la protection sociale. Nous revenons sur ce qu'a été la première journée avec vous, Nadine Timba.
La Déclaration universelle de droits de l'homme stipule que toute personne, en tant que membre d'une société, a droit à la sécurité sociale. Par sécurité sociale, on voit l'accès aux soins de santé de qualité, l'accès à la scolarité pour les enfants, une prise en charge des personnes en situation difficile et les personnes du troisième âge. Le gouvernement congolais a donc le devoir, au travers de son programme national de protection sociale, de mettre en place des stratégie pertinente, susceptible de résoudre le problème inhérent aux insuffisances dans la couverture et la qualité des prestations sociales, aux problèmes de gestion et d'insatisfaction des bénéficiaires et la prise en charge des indigents, d'où la tenue de cette table ronde. Le professeur William Akiachi, vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, explique.
Pendant les trois premiers jours, tous les participants enrichis de la présence de tous ces experts vont analyser méthodologiquement les contenus de ces documents préliminaires. Pendant les deux jours restants, ils vont dégager les orientations stratégiques de ces documents qui, de ce fait, serviront de référence pour la production du plan stratégique national de protection sociale en République démocratique du Congo. Puisse cette rencontre constituer le fer de lance de notre politique nationale de protection sociale.
De son côté, professeur Philippe Deline, expert international et professeur à Louvain, insiste sur les termes de référence du document qui sera validé au cours de ses assises.
Le texte qui va être discuté ici est un texte provisoire, être soumis à validation. Ensuite, je voudrais insister qu'il était le fruit du travail d'une équipe de personnes convaincues et, je dois ajouter, entêtées. Ce travail est le fruit d'un processus profondément inclusif et participatif. Un travail qui a engagé la réflexion de tous les Congolais.
Notons que les participants sont venus de 11 provinces et ils ont 5 jours pour produire ces documents sur le plan stratégique national de protection sociale en RDC.
Merci Nadine et prenez rendez-vous avec nous, chers auditeurs, au début de la semaine prochaine pour en savoir un peu plus sur les grandes décisions de cette table ronde nationale sur la prévoyance sociale. Et le deuxième sujet de notre dossier de la semaine, c'est une nouvelle qui n'a pas enchanté les opérateurs économiques et autres voyageurs. Nous vous avions proposé lundi cette interview exclusive que le directeur général de Corongo Airlines a accordée à Radio Capi, interview au cours de laquelle il a expliqué les causes qui ont poussé les responsables de cette compagnie aérienne à dissoudre l'entreprise. Parmi ces causes, Christophe Allard parle des conditions d'exploitation et le cadre fiscal pas favorable à la rentabilité de la compagnie. Christophe Allard était au micro de Innocent Olenga.
Nous avons tout mis en œuvre pour parvenir à notre objectif de mettre en place une compagnie aérienne sûre, fiable, répondant aux normes de sécurité internationales. Mais comme vous le savez, tout projet doit évoluer à un moment ou à un autre. Et cette évolution nécessitait absolument des investissements complémentaires. Et pour parvenir à ces éléments-là, où il a semblé aux associés qu'il fallait pouvoir bénéficier d'un partenariat étroit avec l'État congolais et bénéficier d'un environnement favorable à ce développement. Parce qu'on ne peut pas ouvrir de nouvelles escales à l'étranger, notamment sans bénéficier de droits de trafic. On ne peut pas assurer le développement rentable d'une compagnie sans bénéficier d'un cadre fiscal qui soit adapté. Et donc tous ces éléments-là ont fait l'objet de beaucoup de discussions avec l'État depuis de nombreux mois, malheureusement sans parvenir à un accord. Et donc c'est fort de ce constat-là que nous avons dû prendre la décision très difficile de dissoudre la société, ne voyant pas de futur pour notre compagnie.
Toujours lundi, une mission économique et commerciale des décideurs et hommes d'affaires de la Wallonie-Bruxelles, avec une vingtaine d'entreprises à la clé, a entamé à Kinshasa des discussions d'affaires avec les opérateurs congolais à Kempinski Fleuve Congo Hotel. Cette année, le choix est porté sur le secteur de l'énergie, ressources minières et hydrauliques, mais le calendrier prévoyait également des échanges sur l'amélioration du climat des affaires, pour attirer encore davantage d'investisseurs au Congo. À la clôture de la mission jeudi à Kinshasa, quelques contrats entre les parties ont été signés dans les secteurs de l'énergie notamment, environnement, enseignement et la santé. Le ministre belge a dit lors d'un point de presse qu'il a animé à cette fin que des contrats prometteurs ont été également signés. Et nous allons retrouver Nadine Foul encore une fois pour plus de détails.
Dans le secteur de l'éducation, l'Université de Liège va soutenir l'Université de Kinshasa et créer à Kinshasa School of Management, une école de management qui est déjà en cours d'implantation. Selon le ministre belge de l'économie et commerce extérieur, pour la santé, la Belgique, en sa qualité de premier producteur de médicaments, veut mettre son expertise au profit de la RDC au travers d'un projet sur la sécurité des médicaments. Sachez que beaucoup d'entreprises belges sont déjà présentes en RDC. Dans l'énergie, la société Altec est déjà au pays depuis longtemps dans la purification d'eau. Il y a aussi EDES qui exploite une centrale hydroélectrique à Tchikapa et elle vient de signer un contrat pour le même service, mais cette fois-ci à Beni et à Butembo. Sodefor, quant à elle, est dans le bois et la construction. L'aéroport de Liège est engagé pour la gestion de l'aéroport de Ndjili. En conclusion, le ministre de l'économie et du commerce extérieur belge a souligné que plus le climat des affaires s'améliorera en RDC, plus les entreprises belges vont implanter leur représentation.
Merci beaucoup Nadine Foulantimba et nous allons retrouver à présent notre invité dans ce studio de Panorama Économique pour tous ceux-là qui viennent de se joindre à nous. Je vous dis que vous suivez Panorama Économique, la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio et cette semaine, notre invité c'est Gabi Kouba, c'est un analyste économique, il est dans le secteur des ressources naturelles, c'est un expert en ressources naturelles et voilà, c'est lui que nous avons invité cette semaine pour commenter l'actualité de la semaine. Gabi, vous avez suivi dans notre dossier de la semaine, une semaine qui a commencé par la table ronde nationale sur la protection sociale et le deuxième dossier a porté sur cette mission économique et commerciale des hommes d'affaires belges en République démocratique du Congo et cette nouvelle qui n'a pas enchanté les voyageurs que vous êtes, Korongo Airlines, qui a pensé que le moment était venu pour mettre fin à ses prestations en République démocratique du Congo. Rapidement, dans ce dossier, votre commentaire et analyse.
Je voudrais d'abord commencer par le dossier Korongo. Vous savez que cette compagnie a subi plusieurs mutations. Si la raison de la dissolution de la société, c'est la fiscalité, je ne crois pas du tout. Je ne suis pas de cet avis.
Vous pensez qu'il y a autre raison?
Il y a d'autres raisons qui expliquent la dissolution de cette compagnie.
Elle serait quoi? quoi ces raisons?
Par exemple, la fiabilité et la viabilité de l'entreprise elle-même, mais aussi on est dans une situation presque de monopole aujourd'hui avec une seule entreprise qui opère sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, mais aussi les charges que l'entreprise Korongo devrait en tout cas assurer pour son bon fonctionnement. Et là aussi, il faut craindre parce qu'il faudra lier également c'est le dialogue social du lundi avec, parce que le dialogue social c'est aussi la protection sociale, c'est aussi l'emploi
oui,
donc
justement.
la dissolution d'une grande compagnie comme Korongo aura probablement ou certainement des effets néfastes sur les emplois des personnes, des Congolais qui travaillent au sein de cette entreprise. Et vous savez que la famille moyenne d'un Congolais, si vous travaillez et que vous avez un salaire, vous nourrissez c'est au moins 5 à 10 personnes, donc le pire est à craindre. Alors, revenons au dialogue social et entre le gouvernement et les autres parties prenantes. Les documents qu'on va produire, ce n'est pas la première fois qu'on s'est réunis pour discuter de la protection sociale. Est-ce que les documents qu'on va produire cette fois-ci seront au-dessus des textes légaux qui existent il y a des années? On a parlé ici de l'accord de Moody. Jusqu'ici, ça n'a jamais été appliqué. Le SMIG, on l'a jamais appliqué. Les retraites, les programmes de retraite,
les conséquences de la non-application de toutes ces dispositions, c'est que les gens qui sont aujourd'hui dans la fonction publique n'acceptent pas d'aller en retraite.
Lorsqu'on parle de la retraite, mais vous allez envoyer les gens à la retraite avec quoi? La retraite ressemble aujourd'hui pour les secteurs publics à l'enfer. Lorsqu'il faut retraiter les fonctionnaires de l'État, je crois qu'ils s'y opposent. Ils s'y opposent en connaissance des causes, parce que ceux qui sont allés à la retraite vivent dans les dénuements total et qu'aujourd'hui parler de la retraite ressemble à l'enfer pour la plupart des fonctionnaires et agents de l'État. Donc il faut améliorer d'abord les conditions sociales des travailleurs. Les allocations familiales n'existaient pas, le logement n'existait pas pour le secteur, les transports n'existaient
aussi
pas.
Aussi bien dans le salaire, public que dans le privé.
Le salaire lui-même. Mais oui, avant d'imposer par exemple le SMIG au secteur privé, il faudra que l'État lui-même le respecte. À l'époque où Mme Marie-Ange Loukiana était ministre du Travail et Prévoyance Sociale et elle avait fixé le SMIG à cette époque-là, mais
à l'équivalent de 3 dollars
par jour, ça n'a jamais été appliqué. Et lorsque les travailleurs du secteur du commerce tentaient de manifester pour demander à leurs employeurs et d'appliquer le SMIG, quelle a été la réponse du secteur privé? L'État lui-même applique-t-il le SMIG pour que vous puissiez revendiquer ce qu'il a fixé?
Et je crois que cette question de SMIG a été encore inscrite lors de la réunion du Conseil national du travail et il était question de réveiller parce qu'il y avait une commission justement qui était mise en place à l'époque de Madame Marie-Ange Loukiana pour assurer l'application de ces dispositions, mais le comité n'avait pas fonctionné et le CNT, dernièrement réuni, a décidé, a pris entre autres résolutions, de réveiller ce comité et lui donner les moyens possibles pour voir comment appliquer d'abord les 3 dollars, l'équivalent de 3 dollars, et si possible réajuster à la hausse ce SMIC.
Les bonnes initiatives ont toujours existé, mais elles sont restées stériles pendant des années. Ce sont des discussions, en tout cas, qui n'apportent rien de concret. S'il faut multiplier, plus on multiplie les initiatives, plus
les problèmes se multiplient,
trop de soucis et on n'arrive pas à des solutions concrètes.
Et que ferait-on alors? Il faut croiser les bras et regarder la situation pour rire?
Mais il faut faire une réévaluation de ce qui a été fait dans le passé. Où est-ce qu'on a échoué et que faire pour résoudre concrètement les problèmes au lieu de continuer à créer des commissions en commission, des initiatives à initiative.
Les hommes d'affaires belges sont venus encore une fois cette année au Congo. Ils viennent chaque année dans de réunions B2B, business to business avec les opérateurs congolais.
Ah oui, mais je à mon humble avis, aujourd'hui, les hommes d'affaires belges sont en retard par rapport aux autres, notamment notamment les Chinois, les Indiens, les Asiatiques et tous les pays émergents. Pourtant, au départ, c'est vrai que la République démocratique du Congo a été la colonie de la Belgique et qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'hommes d'affaires belges qui ont prospéré au Congo. Il y avait beaucoup d'entreprises belges au Congo. Mais avec une nouvelle donne est arrivée avec les pays émergents, notamment la Chine. Et la présence, en tout cas, des investisseurs belges au Congo est devenue aujourd'hui timide. Mais il faut faire attention. Un diplomate me disait qu'il fallait réévaluer la coopération avec la République démocratique du Congo, comme la Chine. Par exemple, le soutien aux investissements. L'exemple est de Exim Bank, aujourd'hui, qui soutient les entrepreneurs en République démocratique du Congo, non seulement au Congo, mais aussi à travers l'Afrique. Une pareille initiative a manqué à la Belgique ou à l'Union européenne pour soutenir les vraies zones d'affaires. À travers, par exemple, la Banque européenne d'investissement n'a pas accompagné les zones d'affaires. Mais par rapport au regard aussi de la crise qui frappe actuellement l'Europe, la plupart des entrepreneurs occidentaux vont en Chine pour se ressourcer
financièrement.
Pour se ressourcer financièrement afin également de booster leurs économies. Et là aussi, ça pose un problème parce qu'on est dans une situation concurrentielle pendant qu'ils vont chercher des financements en Chine pour leur prospérité. Au même moment également, la Chine est arrivée sur la terre où les autres avaient une ascendance sur eux pour l'exploitation surtout des matières premières et l'Occident, disons la Belgique, est presque en retard. Une province très dynamique dans les secteurs économiques comme les Katanga, mais les opérateurs économiques belges sont pratiquement absents, même dans les petites unités de production, dans les villes comme Kinshasa ou autres, ce sont les Asiatiques qui font la loi. Donc leur présence est vraiment timide, mais je pense que si ils doivent en tout cas se réveiller, ça serait une bonne chose parce que les portes de la République démocratique du Congo sont grandement ouvertes pour tous les investisseurs du monde entier.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
À présent, la deuxième partie de notre émission avec les autres informations de la semaine. En bref, paralysie lundi à Uvira au Sud Kivu de toutes les activités. Cela fait suite à l'appel de la nouvelle société civile congolaise qui avait décrété 2 jours de ville morte à partir de ce lundi. Elle voulait ainsi protester contre le paiement de la taxe faunaire qui, selon les organisateurs, devrait servir à réparer les routes et ports qui sont dégradés. Notamment le port de Kamvivira à Uvira. Ce pont facilite l'approvisionnement du centre-ville en denrées alimentaires en provenance de la plaine de Ruzizi et en produits manufacturés de Burundi voisin. La carrière minière de Mabaya, 3 mois seulement après sa découverte, connaît aujourd'hui un afflux massif de personnes. Cette carrière est située à environ 5 km de Whisky dans la cité de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Ces personnes à la recherche du cobalt viennent de Kolwezi, de Likasi, de Lubumbashi, de Kakanda et de Kasumbalesa Centre et même du Kasaï Oriental. Et sur place, les prix des produits alimentaires ont augmenté par rapport à Kasumbalesa et l'activité économique prend de plus en plus de l'ampleur. La Fédération des entreprises du Congo Antenne de Luena, à près de 350 km de Lubumbashi, dénonce la tracasserie de la part des agents de la DGM. Ce service est nouvellement implanté dans cette cité de la province du Haut-Lomami et selon la FEC, ces agents exigent 500 francs congolais aux commerçants et autres personnes qui voyagent par véhicule, par train ou même par avion à partir de l'aérodrome, même si la personne détient sa carte d'identité, elle est obligée de donner 500 francs que ses agents appellent un rapport. À Kalima, la traversée par Bako a repris depuis mardi sur la rivière Ulindi dans le village Kinkungwa. Ce village se situe à 112 km au nord-est de Kindu dans le Maniema. Selon les responsables en charge de questions techniques de l'office de route locale, ce bac a une capacité de 15 tonnes. La même source ajoute que ce bac a pu acheminer des produits agricoles de la rive gauche vers la rive droite de la rivière Ulindi. C'est une traversée saluée par les agriculteurs et autres bénéficiaires. Et nous allons terminer par le comité directeur du guichet unique intégré du commerce extérieur qui s'est réuni pour la toute première fois jeudi à Kinshasa. Il était aux questions au cours de cette réunion du comité directeur de passer en revue les exigences relatives à la mise en œuvre effective du guichet unique intégré du commerce extérieur d'ici le 29 septembre prochain.
Panorama économique, matière première.
Et nous allons retrouver Denise Maéo depuis Lubumbashi dans cette rubrique matières premières. Le groupe suisse Glencore, un géant de matières premières, a annoncé la suspension de la production du cuivre dans les mines de l'ancienne province du Katanga en RDC et de Mopani en Zambie. Le sujet était au menu de l'écho économique de jeudi soir et je vous convie à suivre cet entretien entre Denise Maéo Moissi depuis Lubumbashi et Mireille Bukasa qui explorait quelques conséquences que cette décision pourrait avoir suivies.
Des conséquences de cette décision, il ne peut qu'y en avoir. Et ici, la filiale touchée est Katanga Mining qui détient 75% dans Kamoto Copper Company KCC qui est basée à Kolwezi. Selon un communiqué du groupe Glencore datant du 6 septembre et repris par Jeune Afrique, la suspension de la production du cuivre est d'une durée de 18 mois. Motif évoqué, la baisse du prix du cuivre sur le marché mondial. Et il faut dire que cette décision secoue la ville de Kolwezi, car les travailleurs sont dans l'incertitude du lendemain.
Effectivement, s'agira-t-il de mise en congé technique ou de licenciement?
Mireille, c'est la question que tout le monde se pose. Au fait, la nouvelle est parvenue à Kolwezi depuis lundi. Dans les camps des travailleurs, elle est sur toutes les lèvres. Chacun cherche à savoir quel sort lui sera réservé. Pour l'instant, aucune réponse n'est donnée par les responsables de KCC. Un délégué du groupe Glencore est même arrivé ce mercredi à Kolwezi et a engagé des discussions tant avec les responsables locaux qu'avec la délégation syndicale. À la fête Kolwezi, le président dit prier Dieu pour que cette décision ne se concrétise, car ce sera la catastrophe économique à Kolwezi. Mmh. Toute la ville sera touchée, indique M. Jean-Marie Tiansa. Et du côté du gouvernement de la RDC, un des conseillers du Premier ministre cité par l'AFP a déclaré, je cite, « Nous demandons à Glencore de respecter ses engagements en matière d'investissement et d'emploi pour préparer la prochaine reprise de production. » Fin de citation. Il faut dire, Mireille, que KCC emploie 4500 personnes. 5500 sont dans la sous-traitance. Son investissement en 2013 était de 3,6 milliards de dollars. KCC produit 450 tonnes de cuivre par jour et prévoyait 300 000 tonnes de cuivre par an.
Merci beaucoup pour toutes ces informations. Denise Maéo Moissi, et très bonne fin de semaine à Lubumbashi. Et c'est par là que nous allons terminer Panorama économique. Mais avant de le terminer, nous retrouvons notre invité, Gabi. Vous êtes un expert dans cette matière de ressources naturelles. Vous connaissez très bien ce secteur. Je pense que c'est une nouvelle qui n'est pas bonne, ni pour l'économie nationale, ni pour la protection sociale.
C'est une très triste nouvelle pour la République démocratique du Congo et non seulement pour la compagnie mais aussi pour le pays. Le chiffre que Denise vient de vous livrer, d'ailleurs en 2013, la production de Glencore en RDC et en Zambie représente 1% de la production mondiale. Et au niveau de la République démocratique du Congo, rien que cette entreprise, la contribution venue du secteur minier était de 20%. Et Je vous disais ici il y a quelques semaines que le ralentissement de l'économie chinoise,
il y a deux semaines
et la baisse des cours des métaux sur les marchés internationaux
était dangereux.
Auront des répercussions sur l'économie congolaise. Et aujourd'hui, avec cette décision de l'entreprise Glencore de suspendre par exemple les activités de
pendant 18 mois.
Pendant 18 mois, non seulement c'est la loi de l'offre et de la demande, parce que les prix étant trop bas sur les marchés internationaux, la tonne du cuivre, par exemple, jusqu'à hier soir, revenait à 5245 dollars américains. Alors que les prévisions de l'époque étaient de 10 000, 8 000, on est parti jusqu'à, on est descendu un peu plus bas, 7 000, 6 000, et aujourd'hui, donc l'entreprise a fait d'énormes pertes. Et l'entreprise compte ici, la suspension, en ce qui concerne la suspension des travaux pour 18 mois, compte installer une usine pour dissoudre les minerais au lieu d'exporter les concentrés, parce que l'entreprise de Glencore, Kamoto, compte fabriquer des concentrés sur place à partir de la République démocratique du Congo pour donner une valeur ajoutée aux minerais, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi sur les marchés internationaux. Tandis qu'en Zambie, c'est aussi pour la réalisation. On va construire un concentrateur au niveau de Mopani pour booster également les activités. Mais pendant les 18 mois, la plus grande question que l'opinion se pose aujourd'hui, que tout le monde peut se poser, les gouvernements qui demandent à l'entreprise
de respecter son plan d'investissement,
les engagements, mais il faut voir la réalité en face. Donc, le secteur minier contribue à plus de 20% au PIB et KCC est parmi les grandes entreprises qui produisent beaucoup de minerais au Congo. Vous avez dans les secteurs par exemple du cuivre et du cobalt, vous avez Tenke Fungurume, vous avez KCC et vous avez Mouni qui sont en tout cas des géants dans les secteurs miniers, sans citer en tout cas les autres, mais en tout cas ceux qui occupent aujourd'hui la première position sont ces entreprises-là. Donc le retrait ou la suspension des activités d'une entreprise capitale comme Kamoto aura certainement des répercussions.
Et qui sait si d'autres vont suivre les pas, parce
on ne sait pas encore.
La situation est instable sur le marché international.
Par rapport à l'instabilité, à la volatilité et des prix sur les marchés internationaux, peut-être que ce n'est pas, en tout cas, notre souhait. On ne peut pas être des prophètes de malheur pour un pays qui dépend essentiellement de son secteur minier, considéré comme un principal moteur de croissance. Je pense que le pire est à craindre par rapport à ce qui se passe sur les marchés internationaux, pourvu que ça ne dure pas.
Mais sinon, la troïka stratégique de cette semaine, lundi, autour du Premier ministre, avait annoncé une légère reprise et du cuivre et de l'or, mais bon, qu'à cela ne tienne, mais c'est encore loin des prévisions, parce que les prévisions, c'était dans le 10 000 la tonne, 8 000 la tonne, alors si aujourd'hui on est en train de nager dans le 5 000, c'est vraiment dangereux et suicidaire, vu que les coûts de production chez les opérateurs, les exploitants, est encore trop élevé.
Par exemple, en ce qui concerne cette éternelle question du déficit énergétique, a aussi un coût. Les activités peuvent, avec la volatilité des prix des matières premières sur les marchés internationaux, il peut y avoir un petit rebond. Mais il faut voir au niveau de la production, au niveau interne, parce que même s'il y a rebond et que la production baisse, à cause du déficit énergétique,
le coût de la production augmente.
Les courbes auront toujours une tendance baissière. Ce qui veut dire que ça va entamer aussi le budget le budget de l'État. Le problème, c'est que l'économie congolaise n'a pas une capacité de résilience face aux chocs exogènes. Chaque fois que les marchés internationaux sont touchés, on est directement concerné. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la logique de l'exploitation et des exportations. On exportait toutes les matières premières sans les transformer, sans les consommer, et on importait. On importe des produits finis. Cela veut dire que chaque fois que le marché international est touché, l'économie congolaise est directement concernée.
Merci beaucoup Gabi pour toutes ces analyses et pour tous ces commentaires sur l'actualité de la semaine. Il ne va nous rester qu'à vous dire merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation et de partager ce moment avec nos auditeurs.
C'est moi qui vous remercie.
Et à vous, chers auditeurs, merci de votre attention soutenue. Retrouvez Panorama économique toute la semaine sur www.radiocapi.net et l'actualité économique sur Radio Capi de lundi à vendredi, 18h40, heure de Kinshasa. Au revoir.